Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, avec Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. Vous pouvez retrouver les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. Évidemment, dans un instant, les GG sur le buzzer. La France est-elle un pays de losers? La France du sport, évidemment.
Attention.
Qui est loser, n'importe quoi.
Attention quand même.
Ouais. T'as gagné quoi, toi? C'est le mec énervé. Et toi, t'as gagné quoi?
Moins que lui.
Écoutez, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on a les amis de la Fédération Française de la Loose qui sort
un. On peut leur mettre la pression un petit peu ou
pas? Aux éditions Marabout, le tour du monde en 80 Loose. Mais toi, tu me fais peur quand tu dis ça. Donc, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc,
on verra.
Voilà.
J'espère qu'il va marcher leur bouquin, sinon c'est la Loose, hein.
Dans un instant, les GG sur le buzzer.
Il a plus rire.
Je vous l'ai dit.
Et juste pour, tu vois, me remettre à ma place.
Ouais. Tout pour la vanne.
Il a pris le.
Ce mec,
il a pris du grade.
Ouais, ouais.
Il a pris du grade.
Non, parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis.
Fut un temps, il aurait rigolé. Non. Tu vois, maintenant, oui,
en fait, à chaque fois, je me dis. Je peux vous aborder en cours d'émission pour alimenter le Moscato Show pendant la semaine. En fait, il y a quelque chose de machiavélique là-dedans. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Vous pouvez remporter votre aspirateur Cyclomax R15 station signé EasyClean. Pour remporter votre aspirateur EasyClean, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16 sport au 7-32-16. Avant d'ouvrir la porte du vestiaire, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à la montagne, dans les Alpes, à Val d'Isère, magnifique station, ensoleillée ce matin, paraît-il. Léna Marjac et Sébastien Amier sont sur place pour la descente féminine. On en est où, les amis?
Plus trop de soleil, malheureusement, Georges, maintenant. Et pour l'instant, c'est une Autrichienne, Cornelia Hütter, qui a le meilleur temps, qui est en tête devant l'Allemande Kira Wedle-Winkelmann. Et Lindsey Vonn, l'Américaine, est toujours sur le podium avec ses 3 dixièmes de retard. L'Américaine qui pourrait aller chercher un 141e podium en carrière. Et du côté de nos Français, seul le Roman Miradoli, pour l'instant, est passé sur les 5. Et Roman est 10e provisoire. 11e à l'instant, justement.
On suit ça avec vous tout à l'heure, les amis. Allez, tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est la biathlète Justine Breza-Boucher qui nous a expliqué dans Bartoli Time qu'elle arrive à séparer le professionnel du personnel en équipe de France dans ses relations, rapport au retour de Julia Simon, dont elle a été victime d'une fraude à la carte bancaire, je vous rappelle. Donc les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Est-ce qu'on peut performer déjà sans être ami dans une équipe, mais en même temps, est-ce qu'on peut être ami avec un concurrent, un adversaire? Tiens, Fred, est-ce que tu peux être ami avec quelqu'un déjà dans la vie?
mais déjà, dans les grandes codes, tu vois qu'on s'entend tous pas du tout en dehors et finalement on arrive à performer. Donc non, ça peut arriver. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de connaître les deux. J'ai connu une équipe dans laquelle on s'entendait tous bien et c'est vrai qu'on a performé. Mais je vois pas en quoi il est nécessaire d'être pote. En fait, il faut juste avoir un objectif commun, se respecter et avoir envie d'avancer dans le même sens. Mais pour autant être pote, je vois pas du tout l'intérêt. Au contraire. C'est un petit plus, mais il y a aucune nécessité à ça, et surtout si c'est un concurrent. En fait, tu peux être pote avec un concurrent seulement si t'es pote avant. Mais si un jour il vient dans ton équipe et que c'est ton pote avant, oui, tu vas être pote. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui vient,
tu peux pas te faire un pote concurrent. Tu pourrais pas, toi.
Mais évidemment, parce que moi j'ai besoin d'être agressif. J'ai besoin de cette agressivité. J'ai besoin de cette dureté. J'ai besoin de en fait, j'ai besoin de pas l'aimer pour me motiver à être contre lui, en fait, aussi. Parce que je veux pas contre moi et je veux pas contre lui. Mais oui, mais pour prendre la place à l'entraînement, j'ai besoin d'être plus fort que lui, j'ai besoin, j'allais dire l'humilier, donc j'irai pas jusque-là.
Non, mais attends, mais
l'enfoncer au maximum. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas être aussi agressif que je le souhaite si c'est mon pote, en fait.
Non, mais parce que toi, en plus, tu jouais à un poste où l'agressivité était quelque chose qu'on mettait en valeur.
Nous, on avait besoin de se donner des coups, il y avait des coudes qui se levaient un petit peu parfois. Comment tu veux faire ça à ton ami?
C'est-à-dire que excuse-moi.
Tu lui ouvres la lèvre, il a 27 points de suture, et après tu dis, excuse-moi, viens passer à la maison,
on boit un coup.
Moi, ça m'a valu.
C'est arrivé,
ça m'a valu ma plus grosse engueulade sur un vélo. J'étais à la flèche marathon, et j'arrive pour le gagner. Donc, c'est la première année que je suis chez Quick Step en 2009. Et Patrick Lefebvre m'avait recruté pour gagner les courses. Et à la flèche Brabançonne, première classique un peu dans mes cordes, semi-classique, j'arrive au sprint avec trois gars, dont Anthony Gélin, qui est, c'est pas le cacher, l'un de mes meilleurs amis. Et je ferme pas la porte dans le sprint. Et donc Anthony gagne et moi je fais deux. Parce que si t'es un peu méchant, comme tu le dis, si c'est pas mon pote, je ferme.
Mais exactement, bien
et
sûr.
Il peut tomber, mais ou il freine. Mais il m'en veut, mais tant pis, j'ai gagné. Et là, j'ai pas pu. Je vous explique pas le son de cloche dans le bus quand je suis arrivé.
Tu t'es fait pour rien.
Ah, je me suis fait pour rien. En fait, t'as pas les copains mais à la maison, c'est en dehors du vélo.
T'as pas d'amis sur le terrain, sur la piste, etc. T'as pas d'amis. Donc
oui, mais c'est Jérôme aussi.
Oui, parce que c'est un fragile. Mais ensemble, on allait en stage ensemble. Il venait à la maison. Je pouvais pas fermer la porte sur Anthony ce jour-là.
Il y a des gens fragiles.
Mais si tu l'avais fermé la porte,
si tu veux progresser, tu dois être le plus dur à cuire possible.
Non, je pense qu'il m'en aurait pas
voulu. Il faut justement montrer que c'est pas ton pote. Encore une fois.
Moi j'avais pas besoin.
Mais vous rappelez ce que disait Michael Jordan? Non, je suis pas en train de me comparer à Michael Jordan. Mais vous rappelez ce qu'il disait? Il disait, je l'ai pris personnellement. Oui, pour moi c'était personnel à chaque fois. C'était celui qui voulait ma place, c'est mort. Et après sur le terrain, c'est mort. Après. On verra, mais c'était pas mon pote en fait.
Est-ce que vous voyez pas, parce qu'on est à la radio, mais Fred, quand il parle de ça, dès qu'il peut pas être pote, il serre la mâchoire.
Tu sens que le mec a quelque chose, quoi. Tu sens qu'il fallait pas être en face, mais c'est profond chez lui.
Hein. Non, mais c'est par exemple, alors moi j'ai en tête, je rappelle, la question dans le vestiaire, c'est est-ce qu'on peut être ami et adversaire concurrent? Est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un comme ça dans son équipe ou en face même? J'ai en tête Pascal Benoît Chéroux qui disait il y a quelques jours que quand il arrivait à Marseille par exemple, il pouvait pas être pote avec les joueurs qui pouvaient jouer au milieu de terrain et qui pouvaient prendre sa place. C'est un truc qui s'interdisait avec les gens.
Ça veut dire qu'il est au milieu de terrain, on joue quelquefois à 4 ou à 5. Donc ça veut dire qu'il même avec les mecs avec qui il joue, il était pas pote.
Non, mais toi c'était comment Pascal?
Non, mais en fait, je veux distinguer quand il s'agit d'un ami, ça m'est arrivé de jouer avec un ami, ça m'est arrivé aussi de jouer avec quelqu'un qui était mon ami, comme le dit très bien Fred. Avant que nous signions tous les deux dans le même club, bon ben il y avait pas de souci. Mais si je me faisais un ami dans le club que auquel je participe, j'avais signé, il m'arrivait de me faire des amis qui jouaient dans le même secteur de jeu que moi. C'était pas un problème, pourvu que notre confrontation à l'entraînement chaque jour soit loyale, pourvu que nos attitudes soient loyales, rien m'empêchait d'être ami avec un coéquipier concurrent. Il m'est arrivé de m'asseoir sur le banc au profit d'un ami.
Jamais ça pourrait m'arriver ça.
Je lui en ai jamais voulu pour autant. C'est mon entraîneur qui prenait sa décision. Ensuite, retrouver lors d'une confrontation directe un ami sur le terrain. Donc mon adversaire d'une autre équipe. Moi j'étais toujours clair. Je lui disais écoute, on est amis. Avant, on est amis pendant, mais viens pas me voir avant le match, viens pas me serrer la main, c'est pas la peine, je te connais pas, j'ai mon match à exécuter, et tu es mon ennemi, entre parenthèses, pendant une heure et demie. Après, reviens me serrer la main. Il y a rien de plus insupportable pour moi que de se serrer la main. Salut, comment vas-tu? Et à la première minute de jeu, le mec, il te fait une estafilade sur le tibia, tu dis, oh, t'es mon ami!
Donc finalement, on est complètement d'accord, Pascal, en fait, non, comme moi,
disons que moi, je suis un peu plus seigneur que toi.
Des exemples de frères qui se sont opposés quand même, qui ont été coéquipiers ou qui se sont opposés, que ce soit sur un ring de boxe, ce soit dans un match de tennis. Regardez les deux
frères Klitschko ne se sont jamais affrontés, par exemple.
Non, ils ne se sont pas affrontés. Mais il y a eu un autre exemple où ils sont. Mais regardez les deux cousins en tennis qui.
Rinderknecht et Vacherot. En même temps, ils n'ont pas le choix. Ils rentrent sur le terrain, il faut bien s'affronter.
Mais t'imagines la situation mentale dans laquelle tu dois te mettre. Parce que tu dois abattre ton ennemi. Voilà,
c'est pas parce que c'est ta famille que tu les aimes, hein. Ça n'a aucun rapport.
Non, mais moi j'ai vécu ça. En l'occurrence, ces deux-là s'apprécient beaucoup.
J'ai vécu ça tout jeune avec mon frère Sébastien, qui est mon aîné, qui courait à très bon niveau aussi en élite, avant de passer chez les professionnels. Me retrouver avec lui dans la même échappée, lui viser un objectif et mon club et moi un autre. Pas de relais. Prise de tête, ça dure jusqu'au soir et après le repas, c'est engueulade à la maison.
Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que ton premier adversaire, c'est ton père ou c'est ton frère, de toute manière.
Et puis sur un vélo, il n'y a pas de cadeau à faire pour y arriver. Après, moi, je pense que tu peux réussir collectivement, même avec des mecs que tu n'aimes pas.
C'est sûr.
Mais ça t'emmène toujours plus haut quand il y a de l'affect.
C'est-à-dire que le petit pourcentage en plus, si tu apprécies la personne, tu vas le faire.
Moi, je te donne deux exemples. L'équipe Bouygues Télécom, ce qu'elle était devenue à la fin. Avec Thomas Vauclair qui brillait, qui avait un peu changé et qui était plus l'ami d'avant. Et puis l'époque Brioche la Boulangère avec Sylvain, Thomas et tous les jeunes.
Sylvain Chavanel.
Cette équipe-là, elle était indestructible parce qu'on était tous très 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 proches.
Je veux dire quoi, et on a fait des choses. Est devenu plus populaire, plus.
Ouais, ça a changé. Je pense que quand en plus tu es équipier comme moi. Moi, j'ai eu des grands leaders dans ma vie. J'ai eu Sylvain Chavanel, j'ai eu Marc Cavendish. Reconnaissant. J'étais moins fort, j'étais à leur service. J'avais mon rôle dans la réussite, mais il y avait le merci. Donc ça, je pouvais y aller, même si ça n'avait pas été mes amis.
Parce qu'ils avaient la bonne attitude avec toi.
Parce qu'ils avaient la bonne attitude.
Ouais, c'est le respect le plus important.
Exactement. Un mec comme Cavendish, il est arrivé dans l'équipe, je l'ai pris entre quatre yeux direct. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'aime pas. C'est à toi de me prouver que tu es un bon mec. Il a adoré ça.
T'as dit ça en anglais?
Ouais, j'ai réussi. Ouais, la preuve, je traduis du Cavendish et du Benilly sur le tour. Et à côté de ça, on a passé deux jours en Slovaquie, en stage team building.
Il a apprécié ta franchise.
À la sortie de ça, c'était mon poteau. Il aurait pu tout me demander après. Mais j'avais le respect. Et ça, je pense que ça fait marcher plus fort, plus vite, plus haut. Un relais pour Cavendish, une prise de risque pour Cavendish et une prise de risque pour un autre qui a été mon leader, Tom Boonen. C'était pas du tout la même prise de risque. J'avais pas l'affect que j'avais avec Tom que pour Marc. Pour Marc, je serais à l'OTA.
L'accent flamand est dingue.
Cet été, on était dans un restaurant, on était en train de dîner avec Ali, Jérôme et d'autres copains. Et Marc Cavendish est arrivé dans le restaurant. Il a foncé sur Jérôme, il est tombé dans les bras. On sent qu'il y a
une vraie
complicité,
bien sûr.
Alors que ça a été ton leader.
Et ça a été quelqu'un de très dur. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un, quand on est équipier, quand on est dans l'affect, on peut tous dire. Et moi, je lui ai dit, tu peux me dire. Alors, il s'est pas privé. Hein.
Pour moi, t'as pas besoin de l'affect pour ça. Moi, j'ai connu ça sur les Jeux Olympiques. Par exemple, avec Laurent Sierra, moi, je m'entendais pas du tout. D'ailleurs, depuis, on est devenus potes, ce qui est assez paradoxal, mais sur le terrain, on se détestait. Il y avait des clans.
Va lui parler de l'OGC Nice, comme tu m'en as parlé, tu vois.
Nous, très objectivement, on avait des clans au JO. Avec l'entraîneur, ça se parlait pas. Il y avait des embrouilles de tous les côtés. Mais ça fait médaille d'argent. Hein.
Mais sur le terrain, donc, vous avez consensus.
Mais oui, tout simplement parce qu'on se respectait tous, on avait un objectif commun, et t'as pas besoin d'aller boire des coups avec les gars après, en fait. Ça n'a aucun rapport. Et
évidemment que c'est un
plus. Évidemment que c'est un plus. Évidemment que c'est mieux, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir des potes. Mais si tu les as pas, quel est le problème?
C'est mieux.
Tant que t'as des. Moi, je préfère ma médaille d'argent qu'avoir des potes. Hein.
Pascal, toi, comme entraîneur, est-ce que tu te dis l'un de mes objectifs, c'est que tous mes joueurs soient potes? Non, pas forcément.
Non. Oui, j'ai arrêté de rêver quand même. Moi, je me souviens d'une époque en Ligue 1 à Toulon, sous les ordres de Roland Courbis. Il n'y avait pas une semaine qui se passait sans qu'il n'y ait pas des bagarres, quoi.
C'est-à-dire...
Et Roland, il avait un truc que j'ai gardé, entre joueurs. Se taper sur la gueule.
Ouais, mais t'es conflictuel.
Roland, il avait un truc que j'ai repris d'ailleurs, hein. Je dois le reconnaître. Il donnait les clés de son bureau, il disait aux deux belligérants, allez vous battre dans mon bureau, vous reviendrez quand vous aurez terminé. Il faisait tout le temps ça. Mais ça ne nous empêchait pas, toutes les semaines, des bagarres entre nous. Ça ne nous empêchait pas de performer le week-end, malgré tout.
Dans l'équipe de Toulon, il y avait quand même quelques sanguins.
Ouais.
Il y avait quand même du nom. Ça a aimé la châtaigne.
Il y avait du lourd, ouais, mais
si vous n'aviez pas fait football, vous auriez pu faire docker ou voyou, quoi. C'était un peu ça, quoi.
Ouais, il y en a deux, trois.
Chicago.
Et après, Pascal a accusé Fred de tribal. Tu sais, il se mettait sur la gueule à chaque entraînement, les mecs à Toulon.
Alors que moi, je fais que menacer, je ne parle personne.
J'imagine. Comme quoi, on n'est pas tous
avec coach Combi sans régulateur. Pareil, je veux dire. On imagine bien coach apaiser les choses, pas du tout mettre le feu.
Bon, on referme la porte du vestiaire, les amis. Fascinant, mais c'est bien, ça casse aussi l'image un peu à chaque fois qu'on entend. Ah, ils sont pas potes, ça va poser des problèmes dans le vestiaire. Bah non, c'est aussi l'histoire.
Bon là, au niveau. Là, en faisant référence quand même au biathlon. Excuse-moi, Georges, de te couper.
Il y a pas de souci.
Mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus que. De la haine. Là, il y a une affaire de vol.
Ah non,
c'est différent. Moi, je vois pas comment c'est.
Il n'y en a pas dans les vestiaires de foot.
Ouais, mais
quand tu viens
de découvrir que le business est ça et que parfois tu t'aimes pas et que tu vas quand même pour avoir un truc commun, moi, ça me surprend quand même. Hein. En 2025, si tu sais pas que pour être un athlète de haut niveau, tu dois pas mettre d'affect et que le sportif prime, ça me surprend un peu quand même.
Et vous retrouvez le vestiaire en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. On accueille le gagnant du calendrier de l'avant RMC. C'est Jérôme qui est avec nous. Salut Jérôme.
Mais c'est normal qu'on ait un Jérôme pour le calendrier de l'Avent. C'est logique.
C'est pas Jérôme Pinault, je précise. Hein,
allez, salut les amis. Bienvenue dans le calendrier de l'Avent du magasin. Non,
bon, Jérôme, déjà, on est ravis de t'avoir avec nous.
Moi également.
Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la case du 20 décembre dans le calendrier de l'Avent RMC qui est à côté de moi. Et je vais te dire ce que tu as remporté. Tu remportes une montre connectée de la marque Garmin avec GPS intégré et une très longue autonomie d'une valeur de 330 euros. Félicitations, Jérôme.
Alléluia. Merci beaucoup.
Ah, elle est magnifique. Ben voilà, ça, c'est un beau cadeau avant les fêtes. Ça. Les fêtes commencent déjà grâce à RMC. Merci d'avoir appelé, Jérôme. Félicitations à toi. Vous pouvez appeler également demain et dans toutes les émissions d'RMC pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Comme ça, vous avez un magnifique cadeau. Et en plus, on entend Maria Carré à chaque fois. It's time.
Oh là.
Jérôme, tu chantes hyper bien.
Quelle voix, Georges et.
Ah non, c'était pas moi, c'était toi.
Aussi, chanteur.
C'était toi.
Comment tu fais bien tous les deux.
Allez, on revient dans un instant, les amis. On va parler. Est-ce que la France est un pays de losers dans le sport? On a nos amis de la Fédé de la Loose qui vont être avec nous alors que Paris, le Tour du Monde en 80 longs ou en 80 loose aux éditions Marabout, ils vont venir nous en parler. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Dans un instant, les jeux du sport, on va savoir quel GG connaît le mieux le sport et quel GG est la plus nulle au sport, tout simplement.
Nul.
Voilà, nul. À la fin de l'année 2025, d'ailleurs, on va le dévoiler. Qui est le plus nul?
Qui est le plus nul?
Ou la plus nulle. On salue Alizé Cornet qui nous écoute, évidemment, qui au jeu n'a pas été très performante, mais elle le sait. Elle le sait et ça l'énerve. Mais d'abord, les amis, la France, est-ce que ce n'est pas le plus beau pays au monde pour ces losers magnifiques en sport?
RMC, les GG sur le buzzer.
Julien Alaphilippe qui va aller s'imposer devant Primoz Roglic. Julien Alaphilippe qui lève les bras à Liège.
Il lève un peu tôt. Hein.
Ah ouais, il n'y a pas grand chose là avec Primoz Roglic. Alors regardez, les embrassades, c'est pour Primoz Roglic. C'est Primoz Roglic, deuxième du Tour de France, qui remporte Liège-Bastogne-Liège.
On va se contenter du minimum dans la surface de réparation. 10 secondes de la fin du temps réglementaire.
Attention Kostadinov.
Et oh but. Oh là, 10
secondes.
C'est la fin.
Aïe, quelle catastrophe.
Au départ, voici Marion Roland. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide.
Non.
Eh bah, ben, qu'elle a pas solide du tout.
Non.
Non, c'est pas possible.
I'm a loser. Ah, on les adore, le loser. Julien Alaphilippe qui célèbre une victoire avant la ligne alors qu'il est battu. Le Bulgare Kostadinov qui nous prive d'une qualif à la Coupe du Monde en 2014.
Jean-Michel Larquet.
Thierry Roland. La skieuse Marion Roland qui était tombée, mais qui s'était surtout sérieusement blessée au départ des Jeux, souvenez-vous. C'est ça notre France aussi, celle où on n'aime pas dire trop fort qu'on veut être les meilleurs, comme les Américains par exemple. Un pays qui a préféré le perdant magnifique Poulidor au vainqueur écrasant Anquetil sur le Tour. On va se poser une question dans un instant, mais en voulant parler de ce matin, parce qu'on reçoit Antoine Declercq, le créateur de la Fédé de la Loose. Salut Antoine.
Bonjour à tous.
T'es un peu représentant, ouais, le représentant
j'ai
de la
des
Loose.
Regards noirs là.
C'est ça. T'es un peu, ouais. Est-ce que tu fais pas un peu, vous faites pas un peu peur à toute la planète sport finalement?
Bah, ils ont peur qu'on parle d'eux.
Et oui, on sait sur les réseaux sociaux à chaque fois, vous voyez, dès qu'un Français termine au pied du podium, paf!
C'est ça. Mais on parle aussi de ceux qui gagnent, mais d'une autre manière.
Et ouais, en disant dommage, on peut pas en parler. On peut parler de ces mecs-là. La Fédé de la Loose, vous publiez ce magnifique ouvrage, Le Tour du Monde en 80 Loose, que j'ai dans la main. Franchement, qui est un super cadeau de Noël aux éditions Marabout.
Donc là, il n'y a pas que des Français.
Hein. Non,
il y a pas que des. Il y a quand même des Français.
Ouais. C'est prince. Bah, notamment, la préface est signée
Romain Grosjean. C'est-à-dire, pour moi, ma carrière s'arrête ici.
Romain Grosjean, que vous considérez comme un magnifique loser français.
Bah, il a fait quand même beaucoup de cagades et puis il est sorti. Avec panache de la F1 quand même.
Non mais tiens,
panache fumé, tu veux dire. Ouais.
C'est vrai qu'il est sorti avec panache. Quand il est vivant, on peut dire ça.
Ouais, on peut le dire après.
Non mais tiens, Antoine, avant de débattre dans quelques instants, explique-nous un peu la Fédé de la Loose. Vous êtes un peu rentré maintenant pour ceux qui suivent les réseaux sociaux. C'est peut-être qu'il y en a qui vous connaissent pas, hein, qui écoutent la radio. Pourquoi vous avez créé ça? C'est quoi? C'est une bande de potes déjà?
C'est une bande de potes effectivement à l'époque où c'était que Facebook. On créait énormément de groupes Facebook et il y a celui-là qui a fonctionné. Et pourquoi la Fédé de la Loose? Bah, t'as tout expliqué, c'est-à-dire que on parle de Bulgarie, on parle de Séville 82, encore des vingtaines, des trentaines d'années après, tu vois, ça fait partie de notre chose commune, tu vois. On va plus parler de Séville 82 que de l'Euro 84 qu'on gagne, tu vois.
C'est vrai, t'as raison.
Ouais. Donc c'est plus... pour ça, on a ce terreau fertile où on aime la défaite en France.
On va plus parler de la défaite en 2022 face à l'Argentine que de la victoire 4 ans plus tôt. T'as raison, en plus, c'est vrai. On a l'impression qu'on aime bien s'auto-flageller.
Absolument.
Et dans le Tour du Monde en 92, vous êtes rendu compte quand même que les étrangers, ils sont un peu losers maléfiques.
Bah, on a fait des petits comparatifs en Europe avec par exemple la Belgique ou l'Italie. L'Italie est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Ouais. Ils savent qu'ils ont invité tous les quatrièmes à leur Élysée là-bas après les Jeux. Parce qu'ils avaient énormément de quatrième place. Du coup, ils les ont fait rentrer dans la cérémonie officielle.
Bah, c'est vraiment un truc de loser, ça.
Bah, un petit peu, ouais. on l'a en couverture, mais ils ont Roberto Baggio qui est quand même. Enfin, le moment où il rate son pénalty, ça fait partie 94, de sa légende.
Bien sûr. Vous n'allez pas créer la Fédération internationale de la loose à un moment donné?
Bah, écoute, on bouffe à tous les râteliers. Hein.
reste avec nous, Antoine. Bah, du coup, on va se poser la question dans les GG. On s'est dit que c'était une superbe occasion pour se demander oui ou non, les amis, la France. Oui, la France du sport. Est-ce que c'est un pays de losers? Qu'est-ce que t'obsession?
C'est pas un pays de losers, mais c'est un pays où on aime les losers.
Bien sûr. Fred Weiss.
Non.
Et il est énervé en plus. T'as vu? Fais gaffe. Pascal Duprat.
Non.
Jérôme Pinault.
Évidemment que non.
Oh. C'est pas marrant. On vous attend au 32-16, WhatsApp 06-12-424-424.
Bah, marrant, c'est pas censé être nous. Hein. C'est lui, le marrant.
Dans ces événements que tu viens de citer, je suis pas d'accord avec vous. Ça dépend de quel côté tu te situes du stade. Celui qui a gagné l'Euro 84, il s'en rappelle plus que la défaite à Séville.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, celui qui a un titre.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on met pas plus en avant le traumatisme?
Dans l'imaginaire collectif, on entend plus souvent parler de la défaite de 82, cette séance de pénalty, que de la victoire de deux ans plus tard.
Parce que le traumatisme, je suis d'accord avec Georges.
Dans les conversations que tu peux avoir avec des passionnés de sport, tout le monde se dit, tu t'en rappelles en 82. Est-ce que tu te, moi, je me souviens de ce que je faisais en 84 quand on bat l'Espagne en finale, mais c'est un peu plus trouble.
Sinon, on peut prendre le vélo, on a le meilleur exemple, hein, Laurent Fignon. Si je te dis Laurent Fignon, tu me dis
89.
Les 8 secondes. Oui, tu ne dis pas qu'il a gagné deux Tours de France.
Bah si, oui. Moi, je te dis qu'il a gagné et qu'il a été un énorme champion.
Ouais, bien sûr. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est ces secondes perdues dans le contre-la-montre.
Non, mais c'est une déception, mais c'est pas une lose. C'est pas enfin, un lose.
C'est une lose.
Mais tout comme Poulidor a beaucoup gagné, en fait. Hein,
dans Cyril, tu vas voir ce qu'il en dit, si c'est pas une lose.
Non, mais est-ce qu'on manque pas un peu, tiens.
C'est une défaite.
Fred,
le loser, c'est le mec qui perd tout le temps.
Oui, mais c'est. Oui, mais c'est
la on parle de perdants magnifiques. C'est vrai que les gens qui perdent tout le temps,
ça n'a aucun intérêt. On parle pas de cela. C'est quand t'as gagné quelques fois et que justement il t'arrive un petit truc. Mais je pense que c'est plus facile de retenir un traumatisme. Parce que ça t'a marqué viscéralement plutôt qu'une joie, parce qu'une joie finalement t'es content sur le moment et ça passe.
Mais alors, est-ce que c'est pas un truc français?
C'est là où je rejoins tout à fait Christophe, c'est exactement ça.
En Espagne, c'est pareil.
On aime ça en France. On adore ça.
Ah oui, moi le France-Bulgarie, je l'ai vu repasser à la télé il y a quelques années.
On adore ça.
En France, on n'aime pas toujours la réussite aussi et on est un peu content quand les mecs se plantent en se disant, eh ben c'est un peu cool parce qu'ils ont perdu et ça nous fait du bien de se dire que c'est pas des surhommes et qu'ils vont
et ça les humanise. Moi, je prends Laurent Fignon. Il n'était pas trop aimé avant ces 8 secondes. Après les 8 secondes, il a eu un côté très populaire où on l'a vu là sur
mais
les champs.
Mais il est plus humain, finalement, plus capable de faire des cagades, quoi.
Avant de revenir, on va voir si Laura Gauche va gagner la descente de Val d'Isère. On espère, du coup. Elle est en ce moment sur la piste. Léna Marjinquet et Sébastien Amier.
C'est mal barré.
Et ben Laura, non, malheureusement, il y a beaucoup de retard sur le haut. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup changé la visibilité. Maintenant, c'est vraiment jour blanc. Depuis le dossard 7, 8, 10, les filles ne s'élancent plus avec les mêmes conditions et c'est pas facile de prendre des risques dans des visibilités comme celle-ci. Mais Laura, voilà, 2,07 à moitié du parcours, ça va être très, très cher l'addition aujourd'hui.
Elle est loin, effectivement, à 1 seconde 46. On verra le résultat à l'arrivée, mais elle ne va pas jouer la gagne, effectivement, Laura Gauche. Bastoun, on revient vers tout dans quelques instants. C'est magnifique, du coup.
Voilà.
Pour le coup, pas moi.
C'est parfait. Mais c'est aussi, il faut se rendre compte de la densité de sportifs qu'on a aussi. C'est parce qu'on est tellement fort dans plein de sports différents que finalement, nos losers nous impactent plus. Parce qu'on a cette chance d'être bon dans énormément de sports. Et donc, ça veut dire que quand on se plante, on peut se planter dans énormément de sports. Donc, forcément, ça aide.
Non mais est-ce qu'on manque pas un peu de culture de la gagne quand même en France? Parce que là, je parlais des Américains. Jérôme, t'as affronté par exemple des Italiens qui sont aussi des losers magnifiques, hein, mais qui ont une vision peut-être de la gagne.
Ouais. Alors il y a une. Pour moi, c'est pour ça que nous, on en a parlé hier. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a une culture. Qui est celle de la ce que l'Italien appelle la grinta et un face à face sur une compétition. Je préfère l'avoir avec un Slovaque ou une autre nationalité qu'avec un Italien. Parce que c'est sûr que c'est malin, ça aime la victoire, ça aime la gagne, mais c'est pas
un peu truqueur.
Ouais, mais ça fait
non, mais c'est pas, mais c'était pas une critique, hein. C'est ça des
parties. Ça veut pas dire pour autant que le français est naïf.
Voilà, et ça veut pas dire pour autant que tu es un loser. Il y a cette culture-là de la gagne qui a été et qui l'aime beaucoup moins aujourd'hui. Je pense aussi que les générations nouvelles ont montré que ce qu'on sait tout gagner en France. Je rejoins Fred dans tous les sports. Aujourd'hui, tu ouvres n'importe quelle compétition, tu vas forcément trouver un Français. On avait même joué le sprint, le patin sur glace.
Patinage de vitesse.
On commence à gagner, voilà. Les Hollandais étaient au-dessus.
Le patin sur glace. Ouais.
Et on commence
à
gagner.
Pas pour les
ça veut dire qu'on a, comme le dit, on a des bons outils en France et on crée des champions. Maintenant, effectivement, il y a des défaites qui sont plus marquantes que d'autres. Et t'as des nations que t'aimes pas trop rencontrer. Ah oui. C'est sûr qu'arriver sur une semi-classique en Belgique face à un Hollandais ou un Belge, c'est pas
aussi
la bonne
parce qu'on n'aime pas trop la suprématie en France du sport et des sportifs. On est toujours souvent compatissant avec le second. Par exemple, on n'aime pas les riches en France. Voilà, je suis désolé, j'ai glacé l'ambiance, mais on aime mieux les seconds.
Quoi. Ah bah on n'aime pas ceux qui réussissent, ça c'est sûr, t'as raison, voilà. Pascal.
Tu vois, ceux qui réussissent sont souvent montrés du doigt. Aux États-Unis, ils sont cités en exemple.
Non mais c'est vrai, les Américains ont une culture de la gagne.
Mais justement, moi par rapport à ça, moi j'ai vu la différence. J'ai eu la chance de voir arriver Tony Parker et j'ai vu la différence par rapport à sa mentalité. C'est-à-dire que nous, quand on jouait, quand on fait deuxième aux Jeux Olympiques, nous on était comme des fous. Sauf que s'il y avait eu Tony dans cette équipe, lui il n'aurait pas été content.
Il aurait été comme un fou d'être au second.
Exactement. Dès le début du match, j'aurais dit, attendez les gars, ils ont deux bras, deux jambes comme nous, pourquoi on se battrait pas vraiment? Et c'est vrai que cette différence de mentalité avec les Américains, ben, moi je te parle de 2000, donc ça fait 25 ans, donc je pense qu'on a énormément progressé sur ça, et que c'est devenu quelque chose de naturel d'avoir cette mentalité de gagnant maintenant.
Il me semble important, alors qu'on se pose la question, la France est-elle un pays loser, de dire ce message que je reçois sur WhatsApp, 06 12 424 424, Kermit qui me dit, vous recevez la fédé de la loose alors que Julien Benneteau n'est pas en plateau. On le salue, hein, Benet. évidemment.
Destination finale.
Non, mais l'image que tu as montrée tout à l'heure dans ce bouquin et qu'on a repris dans la présentation, Julien Alaphilippe, ça c'est typiquement français. Pour moi, Julien Alaphilippe, il lève jamais les bras trop tôt s'il n'est pas champion du monde et qu'il n'a pas gagné déjà quelques courses avant. Ça, clairement, un Italien, il ne va pas te le faire.
Le relâchement quand tu as gagné, oui, bien sûr.
Ça, c'est clair, c'est typiquement français.
Bah, attends, tu racontes n'importe quoi.
Il y a quand même un palmarès, pas un palmarès.
Ah non, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un loser.
Suffisant.
Mais ce jour-là, je suis
j'ai le même exemple sur la Coupe du Monde de basket 2019. On bat les États-Unis, donc c'est une performance incroyable. Tu joues contre les Argentins qui ont Scola qui a 72 ans et tu perds ce match.
Ouais.
Alors que tu vas pour et c'est vrai qu'on a cette tendance
parfois
à se
raconter
un peu.
Allez les gars, en fait, vous commencez un peu à vous dire qu'on a un peu de loser.
La Coupe du
monde de rugby 99, tu bats la Nouvelle-Zélande en demi-finale, c'est le match le plus mythique de l'histoire. La semaine d'après, tu dois exploser les Australiens, tu te fais exploser et tu gagnes jamais la Coupe du monde.
On est les rois de la clim en fait. La France est-elle un pays de loser? On est avec Antoine Declercq, qui est un des créateurs de la Fédé de la Loose, alors que vous sortez ce magnifique ouvrage, Le Tour du Monde en
92. Qu'on n'a pas reçu, nous d'ailleurs,
aux éditions Marabout, parce que c'est pour les présentateurs, qu'est-ce que je te dis. Non mais Antoine, est-ce que c'est pas de plus en plus difficile d'avoir des losers français finalement? Parce qu'on a l'impression que la nouvelle génération, c'est un peu une génération de winners, quoi. Alors, avec Mbappé, Marchand.
C'est assez drôle parce que finalement, nous on parle très peu de losers, on parle de lose. C'est-à-dire que tous les grands champions ont des lose. Et je trouve qu'en France, nos loses sont plus belles qu'à l'étranger. Il y a un truc français où.
Plus de panache.
On perd peu. Ouais, mais le panache pour moi, c'est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est quoi si ce n'est un grand loser dans cette pièce? C'est-à-dire, à la fin, il n'arrive pas à l'avoir, Roxane. Hein.
C'est l'histoire de la vie de Jérôme Pinault.
Donc on a vraiment ce terreau culturel où effectivement le panache, enfin, tu parles effectivement, on appelle ça dans le rugby le French flair, tu vois. C'est juste, on n'a pas du tout de tactique, on y va juste un petit peu comme ça. Donc ouais, on a ce côté effectivement un peu, c'est un peu ce côté la France, effectivement on y va un petit peu parfois sans réfléchir et ça crée du coup des belles désillusions pour nous et parfois des grandes victoires aussi.
Et on n'arrive pas à confirmer souvent, c'est vrai comme on le disait tout à l'heure, on fait une grosse perf et juste après on se relâche et on n'arrive pas à confirmer cette grosse perf.
C'est marrant, chez nous on appelle ça faire une Razzano, parce que je me souviens de finir Razzano qui bat Venus Williams, ça exploite total et qui perd contre une no-name le tour d'après. Ben, donc chez nous on appelle ça une Razzano.
Et ben dans tous les sports, je crois qu'on a des Razzano.
Désolé pour elle, mais c'est comme ça que ça
revient. Pascal, t'as l'impression qu'il y a un changement de mentalité peut-être là avec les plus jeunes sportifs français.
Ouais, aujourd'hui, les sportifs français, si tu prends les équipes de hand féminines, masculines, nationales, franchement, elles sont d'une compétitives, ils s'accrochent, ils s'arrachent. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas davantage de continuité dans les résultats.
Là, ils commencent, ils sont sur
ils sont quand même sur le toit du monde depuis quelques années. Prenons l'exemple des biathlètes. Regardez les biathlètes en France en ce moment, depuis quelques années, que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont toujours devant.
Mais vous savez, les gars, il y a un truc, on réfléchit en direct, on est tous ensemble, on est une émission un peu intellectuelle finalement. Non, mais les jeunes athlètes. Non, mais regardez. Mbappé, Wembanyama, Marchand, qui sont les stars d'aujourd'hui. Ce sont les sportifs qui ont été largement inspirés par le sport américain. Aussi, dans leur construction.
Oui,
qui en parlent beaucoup dans leurs exemples. Fred, il parle de LeBron James,
Michael là-bas,
Jordan.
C'est pas une honte d'afficher déjà tes ambitions et d'afficher que t'es le meilleur, en fait, et que tu veux être le meilleur. Et c'est vrai que chez nous, par rapport à ça, on a une vraie problématique. C'est-à-dire qu'avant, quand on disait « je suis le meilleur, je veux être le meilleur », tout le monde te tombait dessus, parce que justement, on préfère les losers. On préfère ceux qui sont humbles et qui gagnent pas vraiment.
Et toi, tu faisais gaffe à tes ambitions, tu fallait pas trop dire.
Moi, je parlais jamais à personne.
Et tu penses que des Prost, Hino et Noah étaient aussi influencés par le sport américain ou non?
Mais parce que moi, je suis une plus jeune génération, j'ai 37 ans, j'ai pas connu cette génération.
C'était les premiers winners du sport français.
Mais évidemment,
en quelque sorte.
Ah nous,
avec Platini, c'était la génération des années 80, c'est la première génération du sport français qui s'est mis à gagner. Bon, derrière, il y a eu quelques désillusions, mais ça a été une période exceptionnelle.
Christophe, on n'a pas pareil, 7000 à gagner et pouvoir l'afficher. Et je trouve que pouvoir l'afficher, on peut commencer
Bernard,
que
maintenant. Bernard, dans le vélo, Bernard Hinault a toujours affiché ses ambitions.
Oui, mais certains, il y a certains cas particuliers.
Il
vient pas
du sport, il les affiche encore.
Oui, mais voilà, il y a des gens, il y a des tempéraments aussi. Mais dans l'absolu, c'était un peu mal vu, dans le sport français en général, d'afficher.
C'est toujours aussi mal vu.
Aujourd'hui, dans certains sports, on a souvent aussi mis des couches et des couches et des couches. Je veux dire, un gamin qui arrivait comme moi en 2000 dans le cyclisme français, t'affichais rien du tout parce que ça faisait 10 ans qu'on te parlait d'Hino et que t'étais un nul.
Peut-être que c'était mieux de bien afficher dans ton cas.
Et puis, surtout dans le cyclisme à l'époque, mon grand, ça c'est sûr qu'il valait mieux pas afficher. Ou alors, t'étais quand même très soupçonneux et très en capacité à être vite à l'affiche dans les faits divers plutôt. Donc, tu vois, valait mieux pas afficher. En revanche, depuis, tout ça est passé. Il y a Alaphilippe qui a fait beaucoup de bien au vélo puisque tu peux de nouveau être français et champion du monde. Et depuis, les gamins, ils peuvent afficher les ambitions.
C'est le roi de
ce que j'allais dire, c'est qui votre goat à la PD de la Loose?
C'est vrai que nous, on a maintenant un petit lien avec Thibaut Pinot vu qu'on avait organisé le virage.
Mais oui, c'est ça.
Dans le petit ballon, mais effectivement. Thibaut, c'est aussi pourquoi il est aimé. Il est aimé aussi parce qu'il y a 2019, parce qu'il y a des défaites terribles. Est-ce qu'il serait aimé autant aujourd'hui s'il avait gagné le Tour?
Finalement, c'est dans tes failles que tu construis ta légende, finalement.
Et ça, c'est dans ces failles que les gens aussi se retrouvent.
Ouais. C'était le mot de la fin. Merci. Au revoir.
Thibaut Pinot a gagné en popularité avec ses ratés.
Ses défaites.
Mais attendez, la fois où on le voit gagner le Tour de France, non, il a une blessure invraisemblable.
Parce qu'en plus, si Thibaut Pinot, vainqueur du Tour de France, ce qui aurait été possible largement. Cette année-là, il était parti pour, en tout cas, il aurait été à la bataille. Je suis pas certain que c'est le mec qui aurait emmené tout le monde. Puis il aurait pas supporté et peut-être que ça aurait mis un terme à sa carrière après parce qu'il aurait envoyé bouler tout le monde.
Bah Thibaut, il a une bonne relation avec vous en plus.
Oui, franchement, bien sûr.
Il adore la
Fédé
de la Loose. Il revendique la Loose, Thibaut.
En tout cas, il a fait la préface du premier livre. Donc c'était assez marrant parce que du coup, il a regagné après. Donc on n'est pas 100% à de la poisse. Mais ouais, est-ce que Thibaut aurait aimé? Moi, c'est ma vraie question. Et puis, enfin, comme on dit souvent, à la FFL, il n'y a rien de pire que l'espoir. Et le pire en 2019, c'est qu'on a eu l'espoir. Là, aujourd'hui, on va regarder un tour. Bon, il y en aura peut-être Sexas dans 2-3 ans, mais on va regarder le tour. On est sûr qu'il n'y a pas de Français qui gagnent. On peut en profiter totalement sans souffrir. Finale 2022, c'est l'espoir qui tue. On aurait pu perdre 2-0 à la 75e, on était bien. Et non, on décide d'espérer, on décide de rêver. C'est de notre faute, tout ça.
On a un sens du narratif en France dans la loose qui est invraisemblable. Le tour du monde en 80 loose aux éditions Marabout avec la préface de Romain Grosjean. Merci Antoine Declercq.
Merci
de la Fédé de la loose d'avoir été avec nous. Alors, on vous adore, tu sais.
C'est gentil, on vous adore, c'est peut-être un grand mot. Voilà. Toi, tu les adores.
Nous, on les aime bien. À chaque fois. Déjà, quand j'ai vu préface de Romain Grosjean, ça m'a fait marrer.
Juste en message privé.
Ouais, c'est un magnifique ouvrage. Et je précise quand même, en quatrième de couverture, le sport français n'a pas le monopole de la défaite magnifique. Eh oui, voilà. Parce que,
voilà, on est fair play.
Ouais, on est fair play. mais les Italiens, ils sont reçus pour être quand ils sont quatrième par le gouvernement. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Bah tiens, les jeux du sport, on arrive dans un instant, les amis. Peut-être qu'on a un quiz un peu thématique aujourd'hui. Restez avec nous, à tout de suite. Oula.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite, ça allait tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes. Jérôme Pinault avec Pascal Duprat et Fred Weiss avec Christophe Cessieux. Il me semblait important pour la vie de groupe que Fred Weiss et Christophe Cessieux soient associés aujourd'hui. Parce que c'était parti de manière un peu trop belliqueuse.
Après la magnifique.
Exactement, on peut se détester, je suis d'accord avec toi, on peut se détester, être coéquipier et peut-être même gagner.
On va voir.
Voilà. Si vous pouviez par contre être un peu plus audible que lors
si tu arrivais à t'exprimer, c'était débat, peut-être plus intéressant aussi pour
avec
les
Nice, nous on va gagner parce que s'ils se marchent dessus comme ils ont fait tout à l'heure, on va gagner.
Excusez-moi, il parle quelle langue ce monsieur?
J'ai eu du mal à
c'est
dire.
La passion qui nous anime. On dirait que tu ne connais pas ça, toi. Avec
la passion,
nous sommes passionnés.
Exactement.
Les amis, on accueille les auditeurs, Cédric et Ludo. Salut Cédric et Ludo.
Bonjour tout le monde.
Salut Cédric et Ludo.
Cédric, c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse choisir ton équipe, l'équipe Pinault Duprat ou Weiss Cessieux.
Ouais, je vais prendre Pinault et Duprat. Ouais. Et j'aimerais bien que Duprat, il reprenne le Samalep de Caen, là.
Ah ouais,
oh
ah
là
ouais. Ah ouais, bah en plus, ça s'était bien terminé la dernière fois, donc je pense que Pascal est hyper chaud pour y retourner en Normandie.
Ouais, oui, c'est un super club.
Bah, magnifique, ouais, Stade Malherbe. Après, Orelsan, il fera des chansons sur toi.
Kiki et tout avec la bande Mbappé et tout, ça pourrait être.
Bien sûr, je le vois très bien. Et bon, à Nice, hein.
Nice, très bien.
Allez, donc Ludo, tu es avec l'équipe Weiss Cessieux. Je rappelle qu'il y a un aspirateur Cyclomax R15, station signée Easy Clean à gagner. Allez, les GG, c'est parti. Question à une seule réponse. S'il te plaît, Christophe, écoute bien les énoncés. Combien de fois Raymond Poulidor a terminé sur le podium du tour?
0.
5.
6 fois.
5.
Non.
2 fois.
Non, terminé. Allez, c'est une seule réponse. C'est 8 fois. 0 points. Jérôme Pinault a dit 0 fois quand même. C'est un point. Jérôme, il a jamais fait deuxième du tout.
Non, mais j'étais dans
le vainqueur. Il est vraiment passionné.
Quand on était dans la loose, j'étais vainqueur du tour.
Question.
Donc on marque pas de points là.
0-0. Question à une seule réponse. Quel pays a le plus de fois perdu en finale de la Coupe du Monde de foot?
L'Italie.
Non.
Là-haut. L'Allemagne.
Non, mais t'as pas le droit
de dire.
L'Allemagne,
Jérôme Pinault.
Bien, Jérôme.
Combien?
Ah, merci Fred.
L'Allemagne a perdu 4 fois en finale de la Coupe du Monde.
Comme ça, c'est pas toujours l'Allemagne qui gagne. Hein.
Juste, j'ai Jérôme, une seule réponse, je suis d'accord. Sauf qu'il a répondu avant moi. Donc ma réponse ne compte
Jérôme,
plus.
Jérôme, la malice, bravo, ça compte.
Mais c'est pas
le point pour Jérôme. Question auditeur, s'il vous plaît. Cédric et Ludo, c'est pour vous. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, on comprend bien qui a donné la réponse. Ok pour vous?
Okay.
Qui a été le héros du PSG cette semaine mais s'est fracturé la main?
Safonov,
mais j'accepte.
Safonov,
bien joué Cédric.
2-0. Question à une seule réponse, les GG. Combien de fois l'AS Clermont a terminé vice-champion de France en rugby?
7.
Le plus proche l'emporte.
5 fois.
2.
8 fois.
Le vice-champion de France, c'est Christophe, c'est 12 fois. Vice-champion de France, 12 fois, Clermont. Question à une seule réponse, ça me semble beaucoup, 12 fois quand même.
Pour un garçon qui commente le rugby, il est quand même très loin.
Non, mais...
8 pour 12, nous, on devrait y avoir un coefficient quand même. Parce que...
c'est quoi ces questions, Kylian?
Question à une seule réponse. Quel tennisman chilien est le seul joueur à avoir atteint la place de numéro 1
Rio,
sans gagner?
Rios.
Rios.
Rios. Il a dit Rio.
Rios.
Non, non, c'est Rios.
Arrête, je donne le point.
Je suis désolé. Je
le c'est bon, non?
À Christophe Cessieux.
Je le prends
à Christophe Cessieux. Je suis désolé.
Vendu.
Je m'appelle Georges Quirino Chavez par Georges Quirino Chave, par exemple. Les noms.
Non, on parle pas de ville, on parle de joueurs de tennis. En plus,
deux, deux. Question auditeur, c'est pour vous, Cédric et Ludo. Quel français, quel joueur de foot français a manqué son tir au but en finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie?
Face à l'Italie. Mbappé, non, Ludo?
Ah non, 2006. Les gars, c'est pas bon, Ludo. Cédric, c'est pour toi.
Trezeguet.
Bien joué, Cédric. 3-2 pour Cédric. Et je confirme, c'était bien 12 fois.
Bien sûr, Cédric, bien.
En top 14. 3-2 pour l'équipe Pinot-Duprat. On passe à la question élimination. Question pour 2 points. Ben, là, ce sera la fin en plus. Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Citez-moi les GG, les pays à avoir perdu une finale de la Coupe du Monde de foot, justement. Christophe.
La France.
La France. Pascal Duprat.
L'Italie.
L'Italie, c'est bon. Fred Weiss.
L'Allemagne, donc.
L'Allemagne, bien joué. Et oui, il fallait être attentif. Jérôme Pinault. Une équipe, une nation qui a perdu une finale de la Coupe du Monde.
Bah, le Brésil.
Le Brasil, bien sûr, contre la France, notamment. Christophe.
Les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, et oui, 3 fois. Pascal. Non, Fred, pardon.
Là.
Fred. Non, Pascal, Pascal. Pascal. Je suis désolé, Pascal.
Argentine.
Argentine. Pascal. Fred. Pfff, voilà, le mec.
Non, c'est Pays-Bas. Pascal, là. Hein, Argentine.
Non, mais oui, oui. Fred.
Pays-Bas, il l'a déjà dit. Déjà, il l'a déjà dit, Christophe.
J'ai Pays-Bas. Dit Uruguay.
Non, 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 éliminé, Jérôme.
Ben, la Croatie.
La Croatie, mince, bien sûr.
Ah, oui. Il l'a enlevé.
Christophe, il en reste 3. 5. 4. 3.
L'Uruguay?
Non, l'Uruguay a gagné, il n'a pas perdu.
Les Anglais.
Éliminé. Non, éliminé, Pascal.
Bah, de toute façon, on a gagné.
Jérôme?
Non.
Ah non, Jérôme, non, éliminé
non,
déjà.
Non,
Jérôme,
non, il est là, Jérôme.
La Suède.
La Suède,
ouais, bien,
la, il restait également la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Oh. 2 points pour l'équipe Pinot-Duprat. La victoire est pour l'équipe Pinot-Duprat.
Merci. 2 de suite.
Et donc pour Cédric,
demain je joue le 3 de suite.
Félicitations Cédric.
Bravo,
tu
Cédric.
Remportes l'aspirateur Cyclomax.
C'est l'empathie R15. L'empathie et l'osmose qui nous a fait.
Et en plus il nous a enlevé le Rios. Parce que Rio, oui. Évidemment que c'était Rios, bah, hein.
Cédric, tu remportes l'aspirateur sous Soufoukline.
On l'a accordé le Sofanov quand même.
Voilà, ouais, bon, on l'a accordé. Allez, merci les amis.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec l'aspirateur balai Cyclomax R15 d'EasyClean, la marque française d'innovation. Profitez d'une maison impeccable au quotidien.
Attendez.
Plus d'infos sur EasyClean.com.
Je voulais quand même poser celle-ci. Quel sportif a atteint 10 fois la finale sans jamais en avoir gagné une? Quel sportif a atteint 10 fois une finale sans en avoir jamais gagné une?
Julien Beneteau.
Julien Beneteau. Bonne réponse. C'était important. On n'était pas arrivé à cette question, il me semblait important d'y arriver. Merci Pascal, merci Fred,
merci
Christophe.
Salut les
et
amis.
Merci Jérôme. Restez avec nous sur RMC tout de suite, les Paris RMC.
Jusqu'à 13h,
les Paris RMC.